Bien, juste une minute de retard, ça va, on avait réglé les problèmes de PowerPoint. Donc, je rappelle où nous en sommes dans ce cours qui maintenant est focalisé sur un objet qui peut paraître assez particulier ou assez limité et qui est celui de la présence de cartes géographiques ou topographiques dans les livres. Et en particulier dans les livres où on ne les attend pas nécessairement, c'est-à-dire des fictions. Cette présence pouvant être pensée soit sous la forme discursive, c'est-à-dire en fait des cartes qui sont décrites par les mots du texte, mais qui ne sont pas montrées comme telles, ou bien des cartes qui sont gravées et qui accompagnent le texte imprimé, voire sont insérées dans les éditions ou une édition de ce texte imprimé. L'enjeu derrière ce point intéressant mais précis, c'est évidemment cette esquisse de géographie littéraire qui serait un élément important du thème général du cours, c'est-à-dire les textes sans frontières, la circulation au-delà des frontières nationales ou des identités linguistiques de certaines œuvres. Et donc, du coup, de réfléchir, comme on l'a fait dans les deux premiers cours, sur les espaces de circulation des textes à travers non seulement leurs éditions, leurs traductions, mais aussi leur appropriation théâtrale, festive. Et puis, le deuxième volet, qui est celui où nous en sommes aujourd'hui, c'est que les espaces dans les textes eux-mêmes, dans les œuvres elles-mêmes, dans les livres eux-mêmes, et donc du coup, cette attention portée sur les cartes dans les livres. Et j'avais commencé la fois dernière avec évidemment la carte qui, dans le contexte français, apparaît comme la première de ces cartes à l'intérieur d'un livre. Je reviendrai tout à l'heure sur la généalogie de plus longue durée de cette présence, mais perçue comme telle au XVIIe siècle, on le verra grâce à Sorel, la carte qui apparaît en 1654 dans la première édition du premier volume de La Clélie de Mademoiselle de Scudéry est connue comme carte de Tendre, et vous en avez ici, vous la pouvez voir. Et souvent d'ailleurs avec une erreur, puisqu'on parle de carte du Tendre, il s'agit de carte de Tendre dans le texte. Alors je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là très brièvement le contexte de cette carte, c'est dans les nombreuses conversations qui échangent les personnages de la Clélie, ce roman immense qui finalement aura 10 volumes en 1660 et plus de 1000 pages, est situé dans la Rome ou le monde romain de la République, entre Carthage, Capoue, où se trouvent la Clélie et ses parents, et Rome même, des conversations qui sont en fait aussi le miroir ou l'écho des conversations du salon, même si le mot est anachronique, du samedi des mademoiselles de Scudéry. Une de ces conversations conduisait à une savante et complexe hiérarchie des différentes formes de l'amitié, un des personnages, Herminius, s'interrogeant sur l'endroit où il en est dans cette hiérarchie entre l'amitié nouvelle et la tendre amitié. Et pour répondre à cette question, qui est un de ces jeux de salon du XVIIe siècle, je dis anachronique, puisque le mot a été appliqué rétrospectivement par les Goncourt au XIXe siècle. Au XVIIe ou au XVIIIe siècle, on parle de dîner, de maison, ou comme dans ce cas de Mademoiselle de Scudéry, de samedi, date de la réunion dans la semaine, soit chez elle, soit chez un autre participant du salon, mais toujours dans le quartier nouveau à l'époque du Marais. Et donc, dans cette discussion, le Romain Herminius demande où il en est et on attend une réponse de Clélie qui devrait être la manière de répondre à cette interrogation en dressant la carte de cette amitié. Le mot « carte », dans ce premier sens, est pris au sens figuré de la connaissance d'intrigues, d'affaires. Et pour que ce soit plus explicite, les autres interlocuteurs de cette conversation espèrent qu'elle va mettre sur le papier cette carte, mais ils attendent une lettre ou un billet. Et l'invention de Clélie, dans le texte lui-même, c'est justement de ne pas se contenter d'un billet qu'elle va écrire, mais qui va accompagner une véritable carte, comme dit le texte, et qui est la carte de Tendre qu'elle dessine très rapidement, en une demi-heure, dit le texte, sur les tablettes, c'est-à-dire, on en a parlé la fois dernière, c'est-à-dire ces supports de l'écriture ou du dessin qui ne sont pas du papier ordinaire, qui ne nécessitent pas l'utilisation d'encre et de plume, mais qui peuvent être avec un stylo ou un crayon sur cette surface qui permet d'écrire et d'effacer. Et du coup, on en est là, et dans le texte, il y a comme un redoublement de ce qui est la circulation de cette carte dans la fiction et dans la réalité du livre. Dans la fiction, il est Seller, qui est le narrateur de l'ensemble de la Clélie, du roman, déclare que, pour vous le faire voir, madame, la destinataire du texte, dans le texte étant la princesse des Léontins, pour vous le faire voir, madame, voyez, je vous prie une copie de cette ingénieuse carte que j'ai toujours conservée soigneusement depuis cela. Donc, dans le texte lui-même, l'idée d'une copie de cette carte dessinée par Clélie et qui est remise à la destinataire du récit, la princesse des Léontins. Et ceci est redoublé dans la matérialité même du livre, puisque, ajoute l'auteur, à ces mots, Seller donna effectivement la carte qui suit cette page à la princesse des Léontins, qui en fut agréablement surprise. C'est-à-dire qu'ici, à la place de Seller, vous avez Mademoiselle de Scudéry, auteur du texte, et à la place de la princesse des Léontins, la destinataire du livre, Mademoiselle de Longueville, et finalement le lecteur qui a acquis une édition, un exemplaire d'une édition, dans laquelle il trouve, après cette page, insérée la carte de Tendre. Cette carte est ensuite expliquée, je reviendrai sur ce thème, puisqu'un des thèmes qui peut donner amplification à ce que j'essaye de faire ici, c'est évidemment comment on pense au XVIIe siècle les rapports entre l'image, qu'elle soit illustration et qu'elle soit carte, et le discours. Et donc, du coup, ici, accompagne la carte remise au lecteur ou, dans la fiction, remise à la princesse des Léontins d'un commentaire, et qui est en fait ce que Clélie a écrit sur un billet accompagnant la carte qu'elle a remise à Herminius. Et c'est ce que vous pouvez suivre sur cet écran, puisque cette carte, comme on le verra, peut être soit à l'intérieur des exemplaires de la Clélie, soit transformée en une estampe qui est séparée du texte. Ce qui est montré ici, ce sont les trois chemins qui permettent d'arriver à tendre amitié. L'un qui est en voie directe, qui est arrivé à tendre sur inclination, c'est pour ça que tendre est le tendre, c'est comme je disais, le Chambon sur Lignon ou Stratford upon Avon, c'est un nom de lieu qui est là, donc une allégorie. On peut arriver directement à tendre sur inclination, c'est la voie centrale, comme vous voyez, qui suit cette rivière avec la ville de Tendre sur inclination. Et il y a des voies plus complexes, avec de nombreuses étapes, de nombreuses haltes, quelques risques, et qui permettent d'arriver soit à Tendre sur estime, et ce sont les étapes qui se trouveraient sur la droite de la carte, ou bien à Tendre sur reconnaissance, qui serait sur la gauche de la carte, avec les étapes qu'il faut suivre pour là arriver, menacé sur le côté droit, tendre sur estime par le lac d'indifférence, et menacé sur le côté gauche pour arriver à tendre sur reconnaissance par cette mer d'inimitié, les deux écueils, évidemment, où on peut, si on se dévie de sa route, tomber, non, de ne jamais arriver à quelque forme que ce soit de tendre amitié. Ce parcours, qui est une forme d'allégorie, est conduit, donc du coup, avec une radicale séparation, et on a souvent mal commenté cette carte de ce point de vue-là, entre une carte qui est sur l'amitié, qui cartographie des cheminements ou des catégories d'amitié, comme le faisait le texte, vous vous souvenez, sept catégories d'amitié distinguées par Clélie, et non pas l'amour, puisque la séparation en est radicale au sommet de la carte, avec la mer dangereuse et de l'autre côté, cette terre inconnue. Et le commentaire de la carte, par Clélie pour Herminius et finalement par Seller pour la princesse des Léontins et par Mademoiselle de Scudéry pour son lecteur, et le suivant. De sorte que de cette façon, Clélie a trouvé lieu de faire une agréable morale d'amitié par un simple jeu de son esprit et de faire entendre d'une manière assez particulière qu'elle n'a point eu d'amour et qu'elle n'en peut avoir. Aussi, Aronce, Herminius et moi trouvâmes-nous cette carte si galante que nous l'assûmes devant que de nous séparer. Clélie priait pourtant instamment celui pour qui elle l'avait faite de ne la montrer qu'à cinq ou six personnes qu'elle aimait assez pour leur faire voir. Et là, on a le passage dans le texte et dans la réalité, et c'est, je pense, un point intéressant, c'est le parallèle entre les mises en scène de la production, de la circulation de la carte dans le texte lui-même et la réalité assurée par la publication de la carte dans l'édition de la Clélie, on a la mise en scène de ce passage du particulier, cette société de cinq ou six amis proches auxquels la carte peut être donnée, avec le public, c'est-à-dire en fait la circulation de la carte, soit par des copies manuscrites, soit par l'édition imprimée. On a ce passage d'un moment de folie, comme dit le texte, d'une bagatelle destinée à la société réduite du samedi de Mademoiselle de Scudéry, qui partage la galanterie. Et là, on est avec le mot-clé de cette esthétique qui gouverne à la fois les sentiments et les écrits. Et puis, d'autre part, ce grand bruit dans le monde qui est l'écho donné à cette carte. Le texte de Mademoiselle de Scudéry continue. Elle fit pourtant un si grand bruit par le monde, la carte, qu'on ne parlait que de la carte de Tendre. Tout ce qu'il y avait de gens d'esprit à Capoue écrivirent quelque chose à la louange de cette carte, soit en vers, soit en prose, car elle servit de sujet à un poème fort ingénieux, à d'autres vers fort galants, à de fort belles lettres, à de fort agréables billets et à des conversations si divertissantes que Clélie soutenait qu'elle valait mille fois mieux que sa carte. Et l'on ne voyait alors personne à qui l'on ne demanda s'il voulait aller attendre. En effet, cela fournit durant quelque temps d'un si agréable sujet de s'entretenir qu'il n'y eut jamais rien de plus divertissant. Cet passage donc, du particulier du samedi au public qui s'empare de la carte et d'abord dans la société lettrée avec tous ces jeux d'écriture ou de conversation et au-delà le bruit public peut renvoyer à ce qui est le récit, non pas dans le texte de la production de la carte, mais le récit hors le texte de la manière dont cette carte a été imaginée dans la petite société de Mademoiselle de Scudéry. Puisque là, on a une petite société dans laquelle les personnages se donnent des noms de fables ou d'imagination. Mademoiselle de Scudéry est Sappho. Pélisson, qui veut s'approcher de cette amitié tendre avec elle, est Acanthe. Et c'est lui qui tient une sorte de registre qui a été publié sur les conversations, les poèmes, les billets qui circulent dans le samedi. Et c'est comme cela que l'on a un texte dans ces chroniques du samedi, c'est le titre du recueil manuscrit de Pélisson. On a la description des raisons qui ont conduit à cette fiction dans la fiction, à cette fiction à cette fable de la carte à l'intérieur du roman de Clélie. Je cite Pélisson. En une conversation du samedi, Sappho, Mademoiselle de Scudéry, ayant fait sur le sujet de l'amitié une distinction entre ses nouveaux amis, ses particuliers amis et ses tendres amis, Acanthe, Pélisson lui-même, demanda de quel rang il était. Et on lui dit qu'il était des particuliers. Il s'avisa de demander s'il y avait bien loin de particuliers à tendre, et si un homme qui marcherait toujours en diligence pourrait espérer d'y arriver depuis le mois de novembre, où on était, jusqu'au mois de février, qui était celui où finissaient les 6 mois que Sappho avait pris pour l'éprouver. Il lui fut répondu que ce serait suivant la route qu'il tiendrait, parce que s'il manquait le chemin, il n'y arriva jamais. Il demanda combien il y avait de route. On lui dit qu'on y pouvait aller par eau, par terre et par air, et qu'il choisirait laquelle des trois il voulait. Il dit que c'était la dernière, comme la plus courte, et qu'il trouverait plutôt l'invention de voler. Sur quoi il fut parlé de plusieurs personnes qui avaient cru que cela n'était pas impossible. Cette galanterie, au reste, étant poussée plus avant, donna naissance à la carte du tendre, de tendre. Donc on a dans le récit de Pélisson à la fois la proximité, puisque c'est le débat sur les catégories de l'amitié, c'est la question de Pélisson à Kant, et finalement c'est l'idée d'une réponse donnée par une carte ici, une carte imaginée, une carte figurée, qui donne naissance à la matérialité même de la carte de tendre, avec cette différence, vous l'avez entendu, puisque ici il y a un chemin direct qui est évidemment le chemin de la voie d'eau, et des chemins plus complexes avec des menaces ou des périls qui sont les chemins terrestres, alors que le jeu dans le salon, entre guillemets, c'était évidemment de Pélisson de répondre qu'il prendrait le chemin le plus court, c'est-à-dire de voler par les airs. Donc il y a une novation qui est introduite par cette carte de tendre. Et entre les années 1650 et 1660, dans les deux décennies, on a une multiplication de ces cartes allégoriques, au moins une quinzaine. Je voudrais m'attacher à deux qui sont des cartes sentimentales, avec l'intérêt d'une querelle de priorité par rapport à la carte de tendre dans le roman de Mademoiselle de Scudéry, La Clélie. Alors, la seconde, si je me souviens comment on fait, voilà. C'est une carte qui est la carte du royaume de coquetterie. C'est une carte datée de 1655. Et cette carte a été dessinée, puis gravée, à partir d'un texte qui, lui, a été publié en 1654, qui est un texte de l'abbé d'Aubignac, par ailleurs un savant bien connu pour sa pratique du théâtre, donc une sorte de poétique théâtrale qui a régi le genre dans le XVIIe siècle. Cette carte, donc, est comme la traduction matérielle d'une carte présente sous une forme discursive dans le texte de l'abbé d'Aubignac, qui a pour titre « Histoire du temps » ou « Relation du royaume de coquetterie » extraite du dernier voyage des Hollandais aux Indes du Levant. C'est un livre assez bref, d'une 70 pages, 80 pages, qui a été publié par Charles de Cercy, qui était un des libraires du Palais spécialisé dans les nouveautés littéraires, en particulier le répertoire lié à la préciosité. Dans ce livre, l'abbé d'Aubignac imagine une fiction qui est un récit de voyage imaginaire, supposément hollandais et supposément aux Indes du Levant. Et le texte s'ouvre avec cette mise en place de la fiction. La curiosité de voir les terres et les nations éloignées m'ayant fait embarquer au port de Touvent, nous fîmes une route assez heureuse durant quelques jours, mais en nous éloignant des dernières côtes de l'Afrique, nous tombâmes dans des courants que les pilotes ne connaissaient point, et ne pouvant pas résister à leur impétuosité, nous fûmes emportés auprès d'une île qui n'avait point encore été découverte et qui n'est point marquée sur les cartes marines. On a là la mise en place de tous les topoi, de tous les lieux communs du récit de voyage, le départ, la tempête, le naufrage et l'arrivée dans l'île. Et cette île est celle qui est gouvernée par un prince qui a pour nom l'amour coquet. Et avec ce déplacement de ce texte par rapport à la Clélie, puisque ici va naître le thème qu'on va suivre dans plusieurs de ces cartes imaginées, et de pays imaginaires, et qui est le thème de l'île qui peut être à la fois l'île d'Utopie. Je mentionnais que sans doute une des premières cartes, mais sans charge allégorique, était dans la première édition et des éditions successives de l'Utopie de Thomas More, mais aussi l'île qui est l'île barbare, l'île sauvage, comme on peut le trouver dans un texte que je ne sais pas si nous arrivons aujourd'hui, et qui est le Persiles y Sirismunda de Cervantes, ou bien l'île qui est l'île de la dérision, de la satire, de la moquerie, le lieu pour la dérision, la satire et la moquerie, comme c'est le cas ici. Ensuite, on entre dans la description de l'île, dans le texte d'Aubignac, et je le répète, un texte qui n'est pas accompagné de cartes. La carte est figurée par le discours. La description topographique de l'île. À l'orient de l'île sont deux châteaux célèbres, Oisiveté et Libertinage, où les hommes sont ordinairement obligés de prendre attache des gouverneurs pour avoir entrée favorable à la cour. Et vers le couchant sont deux maisons de campagne, Tête Folle et Courte Monnaie, où plusieurs des dames qui suivent l'amour coquet vont chercher leur attestation de vie et de mœurs. Et la topographie continue. À l'entrée de la ville capitale est une place nommée Cajolerie, ouverte de tous côtés et qu'on a rendue spacieuse par la ruine d'un vieux temple de la pudeur qu'autrefois on y avait bâti. Et la description topographique est aussi une description des catégories de coquettes ou des travers des coquettes, et une parodie d'une description ethnographique ou politique d'un pays réel se termine sur un ton de condamnation morale de cette coquetterie et qui prend aussi la forme d'une topographie allégorique. Les plus sages des coquettes, lorsqu'elles ont abandonné leur travers, se réfugient dans la chapelle de Saint-Retour. C'est un lieu bâti en terre ferme, séparé de l'île par un petit trajet, mais difficile à passer. Il est toujours occupé par le capitaine Repentir, qui seul a droit d'en rendre le chemin libre. C'est un mélancolique, qui presque toujours est en colère, mais au reste fort sage, pieux et charitable à ceux qui recourent à lui. Et ce sont les dernières pages là, du texte de l'abbé d'Aubignac qui suivent cette morale du repentir et donc du retour sur le continent, une fois abandonné par ce passage étroit mais dangereux, entre l'île et la terre ferme, les vices de la coquetterie. Il continue avec le capitaine Repentir. Il pénètre le fond du cœur, il veut connaître la sincérité et n'assiste jamais que celles qui prennent une bonne et forte résolution de quitter cet impertinent royaume, le royaume de coquetterie, car alors il les conduit en sûreté dans cette chapelle miraculeuse où, sitôt qu'elles sont arrivées, elles ouvrent les yeux, s'aperçoivent bien qu'auparavant ils étaient fermés et découvrent que tout ce qu'elles pensaient voir n'était que des illusions, que toutes les douceurs de cette île ne sont que des amertumes déguisées et que les plaisirs apparents y produisent toujours de véritables douleurs. Et la dernière page du texte est la suivante. Ce lieu qu'il nomme faussement en langage du pays le palais des bonnes fortunes, qui était un autre élément de cette topographie de l'île de coquetterie, qui est en vérité le piège des imprudents, l'erreur de la jeunesse, l'amusement de l'oisiveté, l'opprobre des conversations, l'occupation des folles, le mépris des sages, la ruine de la santé, la désolation des familles, l'écueil des vertus et la source de mille impiétés. Ainsi, prenant de meilleurs sentiments et des routes toutes contraires à celles qu'elles avaient suivies, les coquettes, elles jouissent d'un repos et d'une satisfaction véritable qu'elles avaient inutilement recherchée dans le séjour des troubles et des infortunes. On voit qu'il y a une dimension, évidemment, dans ce texte qui est la dimension d'une condamnation morale de la coquetterie, non pas immédiatement explicitement en termes chrétiens, même si la référence à le repentir et son capitaine, et surtout la chapelle de Saint-Retour, peuvent introduire cette dimension. Alors, par rapport à ce texte, qui circule donc à partir de 1654, la même année que la publication de la Clélie, une carte est faite, mais qui n'était pas, comme je le dis, dans le texte, mais qui est celle-ci. Et cette carte est très fidèle à la description que j'ai donnée, puisque vous y voyez que libertinage dans la topographie du texte est fidèlement rendue par l'image, avec ces deux bâtisses à l'Orient et à l'Occident, libertinage et oisiveté, avec la place de Cajolerie et le temple ruiné de la pudeur, et puis, pour arriver à la fin, ce petit détroit entre l'île de Coquetterie et la terre ferme, où vous voyez la chapelle de Saint-Retour et le navire du capitaine Repentir qui fait passer celles qui ont pris conscience des égarements que représentait la Coquetterie. La troisième temps de cette histoire de Coquetterie, après le texte de Daubignac publié par Cercy en 1654, la carte gravée en 1655, c'est une réédition du texte de Daubignac qui est présenté comme revue, corrigée et augmentée de nouveau et qui a un titre légèrement différent, « Nouvelle histoire du temps ou la relation véritable du royaume de Coquetterie en 1655, l'année même de la carte. » Et c'est là où se met en place la querelle de priorité, puisque Daubignac revendique la priorité dans cette production de cartographie de type sentimental et allégorique. Et dans cette réédition de 1655, il y a cette déclaration « Non, non, la Coquetterie n'est point fille de Tendre, elle est bien plus âgée que lui », avec une ambiguïté. Est-ce que c'est une référence à l'antériorité des sentiments de la Coquetterie avant la tendresse, une référence à l'idée d'une carte figurée, décrite par les mots, ou finalement même à l'idée d'une antériorité de la carte dans sa matérialité, déjà présente ou inventée par Daubignac avant même la publication de la carte réelle en 1655. On a ici l'utilisation de ce motif de la carte figurée devenue carte réelle, mais sans doute accompagnant les textes, sans entrer dans les éditions des textes, du moins les exemplaires que j'ai vus n'ont pas de carte à l'intérieur des deux éditions du texte de Daubignac, celle de 54 ou celle de 55. Il y a comme une relation entre une carte qui est une estampe et un texte qui est une carte. Cette définition fait qu'il y a une reprise de cette idée de la carte qui peut être une allégorie et en même temps, à la différence de la Clélie, une critique morale. Dans d'autres cartes, par exemple, une qui a pour titre, je pense que nous l'avons aussi. Oui, c'est le. Non, c'est la prochaine, ça. Donc, on va rester avec Daubignac. Une carte qui a pour titre Description universelle du royaume de Galanterie. Et là, on a une carte qui est entourée d'un assez long texte intitulé « Géographie galande » et la Coquetterie est le nom de la capitale de ce royaume de Galanterie. Voilà la description que l'on trouve dans le texte qui accompagne la carte, mais malheureusement je ne l'ai pas. « Le royaume de Galanterie est situé entre les monts de Dépense et la mer d'Imprudence, dans lesquels on fait grand trafic d'afféterie, de cajolerie, de minauderie. Les marchands sont gens bien faits, emplumés, enfarinés. La capitale, ville et coquetterie. Pour arriver dans cette ville, on laisse le détroit de Vertu à gauche pour passer au cap de Complaisance qui conduit au port de l'amitié où l'on trafique de yachts, de poulets, les billets, de sourires, de bouquets et dieux doux. De là, on passe par assemblées, par connaissances, par conférences qui sont petits villages sur notre ville capitale. Ce royaume est divisé en quatre provinces qui sont l'opulence, le jeu, la bonne chère, l'amour. Et ici, l'allégorie morale n'a pas de fin possiblement heureuse et rédemptrice, comme dans le cas de la carte de coquetterie, où on peut traverser le détroit, puisque cette île du royaume de galanterie est entourée de mers qui ne peuvent être que des mers de la condamnation. À l'ouest, le royaume s'ouvre sur la mer de perdition, à l'est, sur les sables d'inconstance et d'impertinence, et au sud, sur la mer d'imprudence. Il y a donc là une condamnation plus radicale, satirique, parodique, mais qui n'ouvre pas à cet espace que l'abbé d'Aubignac avait ouvert avec le capitaine Repentir. Voilà une autre, donc deux autres cartes, celle du royaume de coquetterie et celle du royaume de galanterie. Alors la carte que j'ai montrée, c'est la seconde carte auquel on peut s'attacher, c'est la carte du royaume d'amour en l'île de Cythère, et qui est de Jean Sadolet. Cette carte, comme on le voit dans le cartouche en haut, est présentée comme de 1650 et comme ayant été décrite par le sieur Tristan l'Hermite, un des poètes libertins du temps. Donc l'affirmation sur la carte est son antériorité par rapport à la carte de la Clélie, puisqu'il y aurait quatre ans auparavant. Là encore, le point de départ est un texte qui porte au titre « Carte 2 », « Carte du royaume d'amour ». C'est un texte qui a été publié en 1658 dans un recueil de pièces en prose les plus agréables de ce temps. Il n'y a pas d'auteur, puisque c'est un miscellané, mais l'auteur, en un certain sens, c'est le libraire-éditeur Charles de Cercy. Il est éditeur aux deux sens du terme, comme en anglais. Il est le publisher et il est l'éditeur de cette série de pièces. Et au premier volume, page 324-331, on rencontre la carte d'amour de... Cette carte d'amour, texte présenté comme anonyme, et dans cette édition, il n'y a pas de carte, le matériel. Le texte est présenté comme la carte du royaume d'amour ou la description succincte de la contrée qu'il régit, de ses principales villes, bourgades et autres lieux, et le chemin qu'il faut tenir pour y faire voyage. On a donc ici la carte dans un sens figuré, le premier sens qu'on avait rencontré dans la Clélie, et le texte se présente comme le guide de cette carte que le lecteur doit imaginer. Le premier paragraphe de ce texte très bref, que vous l'avez entendu, page 324-331 dans l'édition. « Le royaume d'amour, dit le texte, est situé fort près de celui des précieuses. C'est une contrée fort agréable où il y a de la satisfaction de voyager quand on en sait la carte. » Et on retrouve l'expression « savoir la carte » qui était « connaître ». Le mécanisme, les affaires, le fonctionnement. Quand on en sait la carte en perfection et qu'on n'est point en hasard de s'y fourvoyer, il s'y trouve quelques mauvais passages qu'on ne saurait éviter, mais comme on se représente qu'il n'y a nul bien sans peine et que les plaisirs succèdent souvent aux douleurs, on se console facilement. Afin qu'on ne manque point aussi de conseils, voici une bonne guide des chemins que je vais donner. Donc, l'auteur, et lorsque l'on va passer à la matérialisation de la carte, cet auteur va être désigné comme Tristan l'Hermite, écrit une guide, reprenant le féminin du mot qui était classique depuis le XVIe siècle, pour orienter le lecteur. Et cette guide des chemins, donc, est une comme une réappropriation dans la fiction et la fable des itinéraires qui s'étaient multipliés bon, dès l'époque médiévale, mais en plus qui, au XVIe siècle, la guide des chemins de France, par exemple, va décrire une circularité. Et la carte ici va être, de la même manière que pour la carte de coquetterie, une traduction très fidèle du texte anonyme attribué à Tristan l'Hermite. Il s'agit d'une description qui situe ce royaume d'amour, mais sur la carte qui est portée dans l'île de Cythère, comme située aux côtés de la mer des Précieuses. Et on entre dans ce royaume par le côté ici à votre gauche et par le haut, par le royaume, la plaine d'indifférence. Et on peut commencer le parcours avec une série d'étapes qui sont marquées pour chacune des, à la fois les noms, les mentions d'écriture sur les lieux, et puis le circuit qui fait comme un cercle, qui fait passer d'inquiétude à revue, de revue à visite, de visite à soupir, de soupir à soin sur complaisance, qui est une grande et fameuse ville. Et on voit le ton là parodique et libertin du texte, puisque lorsque l'on est à soin sur complaisance, qui est une grande et fameuse ville où se trouvent citadelle, ville et université, l'auteur, Tristan l'Hermite peut-être, décrit ainsi, « L'université a d'excellents professeurs qui sont passés docteurs en fleurettes, rondeaux, bourrimets, triolets, bons mots et contes agréables. On tient qu'ils étudient depuis longtemps pour trouver la plus fine raillerie, mais que la plupart se sont jusqu'ici rongés les ongles jusqu'à la chair vive sans en pouvoir venir à bout. » Alors, de soins sur complaisance, on va à feu déclaré, protestation, confidence, entreprendre. Et à entreprendre, on rencontre un château. Je cite, « Il y avait autrefois en ce même lieu un château médiocrement fortifié qu'on appelait résistance. Mais il a été ruiné par les guerres et de son débris, on a fait une petite bicoque qu'on nomme taux rendu. » La même idée de la ruine qu'on avait trouvée sur la carte de la coquetterie, ici sur la carte du royaume d'amour. Et d'entreprendre, on arrive à jouissance, satiété, faible amitié, et le circuit recommence avec inclination nouvelle qui se trouvait sur le point de départ. C'est-à-dire que comme dit le texte, de faible amitié, on se trouve tout contre inclination nouvelle, joignant doux regards dans le bois de la belle assemblée, tellement qu'il semble qu'on n'ait fait qu'un circuit dans toute la région de l'amour. On voit donc que le statut du texte ici est une sorte de ton désabusé devant l'inconstance, l'impossibilité de la fixation, et donc, du coup, la répétition d'un circuit. Et c'est donc cette idée ici de l'aspect du circuit qui ne termine jamais. Donc, l'île est ce lieu d'enserrement et dont on ne sort pas, avec cette courbe qui est en même temps un cercle, cette courbe qui va avec son point culminant de jouissance, mais immédiatement suivie par satiété, faible amitié et désir d'une nouvelle inclination. Derrière, il y a à la fin du texte, dans le dernier paragraphe, quelque chose qui est une de ces jeux de double entendre des libertins, c'est-à-dire ce qui pourrait apparaître comme la seule manière d'éviter cela, c'est-à-dire une autre forme d'amour, l'amour céleste. Et vous voyez qu'au centre de l'île, il y a cette colline très escarpée qui est Amour céleste, mais qui peut être aussi, vous allez l'entendre, compris comme une ironie. Je cite, Il y en a qui disent que dans le cœur est la ville capitale, mais qu'il y a bien du chemin à faire pour y arriver, car elle est sur une montagne dont le sommet s'élève beaucoup au-dessus des nues. On ne peut y monter ni en carrosse ni à cheval, non pas même avec des mulets ou autres montures, mais seulement à pied. Encore est-il quelquefois besoin d'ôter ses souliers, quoique le chemin soit fort épineux. Plusieurs graves auteurs ont écrit les singularités de cette ville qu'on appelle Amour céleste. Les modernes l'ont nommée sainteté monastique. Il n'y entre point de gens de mauvaise vie. Les gardes qui veillent aux portes en défendent l'entrée, quelques bonnes mines qu'ils puissent faire pour se déguiser. Les habitants de cette cité sont très heureux, parce qu'ils trouvent leur bonheur en eux-mêmes. Leur âme est toujours en repos, bien que leur corps soit souvent en peine. Ils mangent peu, ne dorment guère, et disent souvent un grand chapelet, afin que le reste des habitants de cette province se convertissent et se rendent dignes de vivre avec eux dans cette belle habitation. On a exactement ce registre qui est celui de beaucoup de textes des libertins, Cyrano de Bergerac, Tristan l'Hermite, et qui est apparemment cette morale chrétienne d'amour céleste qui est l'alternative posée à cette circuit sans fin, toujours recommencé et toujours décevant du royaume d'amour en l'île de Cythère, mais en même temps, avec tout ce que les nuances qui sont données, les modernes qui l'ont appelé sainteté monastique, et le ton, pour celui qui sait lire, qui est aussi un ton, finalement, de dérision ou de parodie. Là, question posée par cette articulation entre un texte publié en 1658 et une carte qui se prétend 2650 et qui, je le répète, dans ce cas-là, n'est pas dans l'édition. C'est la question de savoir si on n'est pas aussi à nouveau devant la querelle de priorité, puisque cette date de 1650 n'est pas retenue maintenant par ceux et celles qui ont étudié cette carte du royaume d'amour, l'hypothèse pouvant être 1654, comme la Clélie, voire 1659, donc après la publication de la carte, des deux cartes, le royaume de coquetterie et la carte de Tendre. Avec cette série de cartes, vous voyez qu'on est devant une série de déplacements par rapport à la carte de Tendre de la Clélie, même si c'est à partir du succès, de l'intérêt, du bruit public de la carte dans l'édition de la Clélie que se sont multipliées ces cartes allégoriques, cartes de sentiment, et comme vous voyez ici, toujours déplacement de l'amitié qui est l'objet de la carte de la Clélie à l'amour, et l'amour perçu dans ses excès ridicules avec la coquetterie ou dans sa déception inéluctable avec le royaume d'amour. Donc on a ce premier déplacement, on a ce second déplacement qui, je crois, est important, que Franck Lestringant l'a étudié dans un livre, c'est ce déplacement du continent. Le royaume de Tendre est un continent, alors que tous ces royaumes que nous avons vus, coquetterie, galanterie, amour, sont des îles, avec l'île comme cette tension entre le lieu d'une possible utopie, c'est-à-dire d'un monde meilleur que le monde du continent, mais aussi comme le lieu des égarements, des pertes de la civilité, du désordre du cœur et finalement de la perdition. Et puis un troisième déplacement, c'est le déplacement de l'histoire romaine qui est le site des intrigues multiples de la Clélie de Mademoiselle de Scudéry, autant contemporains qui sont ceux de la vigueur, mais aussi de la critique de la préciosité. Ces trois cartes qu'on a vues, Tendre, Coquetterie et Amour, on les retrouve mises ensemble dans un texte avec lequel j'ai terminé cette première heure, qui est le texte de la Bibliothèque française, ce volume publié par Charles Sorel en 1664-1665, et qui se veut comme une bibliographie des œuvres qui constituent la littérature française, et là encore sans frontières, dans la mesure où, par exemple, il naturalise les romans espagnols, Don Quichotte, les romans picaresques, disant que les traductions les ont fait français. Et il y a, aux pages 170-171, un chapitre, enfin, qui déborde ces deux pages d'ailleurs, mais les pages 170-171 sont sur les cartes, et qui a pour titre des fables et des allégories. Alors, dans Sorel, il y a d'abord cette première affirmation que la carte de Tende fut la première. La carte du royaume ou du pays de Tende, donc on est en 1664, vous voyez, à une dizaine d'années seulement après la vogue des cartes allégoriques et sentimentales, puisque toutes celles dont on a parlé sont des années 50. La carte du royaume ou du pays de Tende est celle qui a paru la première et qui a aussi été la plus estimée, non seulement pour son invention, mais pour sa nouvelle doctrine de l'honnête amitié qu'elle a exprimée si agréablement. Et en ce qui est de la carte du royaume d'amour, donc celle que vous avez sous les yeux, qui se trouve dans le premier volume des pièces en prose les plus agréables du temps, quoi qu'on assure qu'elle vient de M. Tristan, il serait malaisé de savoir en quel temps elle a été faite, si ce n'est au temps que ceci était fort en vogue. Vous voyez que Sorel a des doutes à la fois sur l'attribution à Tristan l'Hermite du texte et d'autre part une incertitude quant à la date, mais il le fait conclure qu'elle serait postérieure à la carte de Tendre. La description du royaume de Coquetterie, que nous avons ici, qui est l'ouvrage d'un de nos auteurs illustres, l'abbé d'Aubignac, est une peinture agréable de la manière de vivre de plusieurs personnes du siècle. Curieux résumé, d'ailleurs, pour ce texte qui se termine par cette condamnation morale et cet appel à la rédemption dans la chapelle du Saint-Retour. On prétend encore que ça a été ici la première de ces sortes de pièces en notre langue, mais qu'ayant été gardée par écrit quelques années, les autres ont passé devant. Vous voyez, ici, il oppose l'écrit comme un manuscrit qui ne circule pas avec la publication imprimée qui était celle de la Clélie de Madame de Scudéry. Ce texte de Sorel donc, prend parti dans la querelle de priorité et d'ailleurs ajoute une autre carte que je n'ai pas mis dans mon répertoire, qui est une carte du royaume des précieuses attribuée à M. de Maulévrier, qui prétendait aussi à l'antériorité. Donc il prend parti. Mais plus intéressant, il ouvre la voie à une interrogation, on va dire, de généalogie rétrospective, ce qui est presque un oxymore, de ce genre. Puisqu'il dit, il s'interroge sur d'où est venue l'idée de cette carte, d'abord des cartes de discours, mais ensuite des cartes matérialisées. Il pense que c'est lié au langage. C'est une façon de parler, assez ordinaire entre nous, de dire « nous savons bien la carte de ce pays-là » pour faire entendre que nous savons bien comment on se gouverne en quelque lieu ou en quelque affaire. De là, on s'est avisé de faire une carte d'amour et de quelques autres passions. Donc pour lui, ça, c'est une traduction, en quelque sorte, d'abord à travers un genre, la carte figurée, et puis d'une matérialité, la carte géographique, de cette manière de dire « nous savons bien la carte de ce pays-là ». Donc pour lui, l'invention française qu'il attribue d'abord à Mademoiselle de Scudéry a été faite sans connaissance de ce qui pour lui est le premier livre qui a utilisé des cartes de cette manière. Je cite « un certain Anglais a fait un livre latin qu'il appelle « Mundus alter et idem », il veut dire que c'est la description d'un nouveau monde semblable à celui-ci. Il est placé aux terres inconnues, qui sont les terres australes, où il feint des provinces, des montagnes, des rivières, des villes, des bourgs, qui ont divers noms comme de la folie, de la sagesse, de l'ivrognerie, de la paresse, de la volupté, de l'amour, et ainsi des autres passions, avec un récit des lieux et des coutumes des peuples fort convenables au sujet. il y a de grandes cartes géographiques dans le livre qui se déploient comme si c'était pour une contrée véritable décrite sérieusement. Il y a assez longtemps que cela est fait, de sorte que cela pourrait bien avoir donné l'origine à des choses pareilles qui ont été faites depuis. Mais finalement, il récuse cette hypothèse, concluant, il faut croire que le premier des auteurs français qui a fait de ces sortes d'ouvrages n'avait jamais ouï parler des cartes de l'auteur anglais et que cette invention lui est venue par hasard comme à cet autre. Et du coup, on a là une invitation par Sorel à remonter en amont de 1654 et de la Clélie, et d'abord d'identifier le livre dont il parle, ce livre de l'auteur anglais qui a publié un livre en latin, Mundus alter et idem. Alors ce livre est un texte qui a été publié sous un, on peut dire, de manière anonyme, comme produit par Mercurius Britannicus. En fait, l'auteur est Joseph Hall, qui était un évêque de l'Église anglaise, d'abord évêque de Norwich, et le livre est publié sous le titre, alors je traduis le latin, « Mundus alter et idem, un nouveau monde semblable à celui-ci », traduisait Sorel, on pourrait traduire un autre et même monde, où la terre australe, jusqu'à présent toujours inconnue par les grands voyages des savants voyageurs, est récemment parcouru par l'auteur Mercurius Britannicus. C'est un texte satirique, de satire politique et sociale, qui paraît à Londres, sous une fausse adresse, Francfort, chez les héritiers de Ascanius de Rignalme, qui est un nom inventé, l'imprimeur ou le libraire-éditeur sont londonien, anonyme, Mercurius Britannicus, et sans date. La date est estimée maintenant à 1605-1606. Et donc l'auteur est caché, il n'est définitivement établi que vers la fin du XVIIe, en 1674, par le bibliothécaire de la Bodleian Library. Mais il y a déjà la circulation de l'attribution à Joseph Hall, par exemple, par Milton, qui mène une polémique contre Hall et pour le stigmatiser, montre qu'il est l'auteur de ce texte Mundus alter et idem. Cette, je n'est pas sûr que Sorel connaissait évidemment cette attribution, puisque vous avez entendu, il parle d'un certain anglais, l'auteur anglais. Et lorsqu'on se réfère à la bibliographie, enfin à la possibilité d'entrer en contact avec ce livre sur le site de l'Early English Books, on voit effectivement que c'est un ouvrage qui a des cartes dans ses éditions en latin. Il y a deux éditions en 1605, date vraisemblable, l'une avec 9 cartes ou croquis géographiques et l'autre avec 5 cartes. Toutes les deux sont sous cette fausse adresse de Francfort. Et il y a une réédition en 1607 avec 5 cartes, toujours sur une fausse adresse, qui est à Novia, chez Guglielmus Antonius, à Nau, en fait, là encore, une édition londonienne. Le texte est traduit en anglais en 1609, réédité en 1613 ou 1614, publié par ce libraire-éditeur que nous avons rencontré, que l'on rencontre presque automatiquement dans ces matières, qui est Edward Blount, puisque c'est lui, comme je l'avais rappelé, qui est spécialisé dans l'édition de textes traduits du monde européen, a été l'éditeur des Essais de Montaigne dans la traduction anglaise de Fleuriot, l'éditeur du Don Quichotte dans la traduction de Shelton, et puis d'autres, par exemple le Père Acosta, mais là, éditeur aussi de la traduction en anglais du texte de Hall. Le titre en est un peu différent, « The Discovery of a New World or a Description of the South Indies. On a laissé de côté la référence aux terres australes qui était dans le texte original Terra Australis pour cette idée des Indes du Sud. Et sous-titre jusqu'ici inconnu et par un English Mercury, Mercurius Britannicus, qui est un nom très fréquemment employé, par exemple dans les pamphlets de la guerre civile anglaise, on voit que, ou pour les périodiques, Mercurius Britannicus peut être la désignation qui cache de multiples auteurs derrière. Dans les éditions anglaises, on n'a pas de cartes. Les cartes n'apparaissent que dans les trois éditions latines que j'ai mentionnées. Et on peut supposer que Sorel connaissait le texte par sa réédition de 1643, là encore avec une fausse adresse, Utrecht, Utrajectus, mais sans doute Londres. Et ce qui est intéressant dans cette réédition de 1643 du texte latin, il est lié avec deux autres textes du début, enfin des années 1620. D'une part, le texte de Campanella, Civita Solis, la cité du soleil, et d'autre part, le texte de Francis Bacon, Nova Atlantis. Le texte de Campanella avait été publié en 1623 et le texte de Bacon en 1627. Comme si la catégorie de texte utopique pouvait rassembler ces différents textes. On voit que la matrice du texte de Hall est multiple, c'est-à-dire d'un côté, il y a l'utopie, mais dans un sens l'anti-utopie, parce que la description n'est pas la description d'un état idéal supérieur ou meilleur que la réalité du monde. C'est tout l'inverse, c'est-à-dire que dans ces descriptions des royaumes qui sont ceux de ce pays des terres australes, et les cartes sont très intéressantes dans la mesure où elles utilisent des éléments qui peuvent venir de cartes tout du temps et qui prétendent être des représentations de territoires réels, et d'autre part, en bas de la carte, au sud, dans le monde austral, la prolifération imaginative de terres, royaumes, continents et mers, qui sont nommés pour les quatre grands royaumes que décrit Hall, le royaume de Crapulia, c'est-à-dire là, le royaume d'ivrognerie, de gloutonnerie, le royaume de Viraginia, c'est le royaume des viragos, des femmes qui dominent les hommes, le royaume de Moronia, c'est le royaume des fous, et le royaume de Lavernia, c'est le royaume des voleurs. Et d'ailleurs, dans ce parti-là, il y a une sous-province qui est très intéressante, qui a fait l'objet d'études récentes, parce que d'un PhD, qui est une discussion sur le plagiat, la terre des la province de Plagiaria, qui est à l'intérieur de cette grande terre de tous les voleurs, et qui peut être un thème intéressant, puisque le plagiat peut être donc désigné, en même temps ne peut pas être construit sur les mêmes caractéristiques, je le disais dans le premier cours, que le plagiat qui est postérieur à l'invention d'une propriété intellectuelle telle qu'elle se définit au XVIIIe siècle. Donc voilà, on a une sorte d'utopie mise à l'envers, puisque ce qui est des terres, normalement, d'une imagination d'un monde meilleur, ici, sont transformés comme les lieux des pires vices. C'est aussi, donc, du coup, une matrice qui est présente derrière ce texte, qui est la matrice du monde à l'envers, si fréquente sur les estampes dans tous les pays européens, Il mondo alla rovescia, le monde à l'envers, the world turned upside down, el mundo al revés. Donc, un genre qui peut être un genre d'image et qui peut être un genre de texte. Et dans les détails de l'analyse ou de la description par Joseph Hall, on voit de très fréquentes figures du monde à l'envers, la figure la plus forte étant évidemment le royaume de Viraginia, c'est-à-dire de la femme qui domine. Et puis, la troisième matrice pourrait être aussi liée à son identité d'évêque de l'Église réformée d'Angleterre, une parodie à plusieurs moments du catholicisme. Donc on a un texte intéressant et qui pourrait apparaître, apparaît dans tous les cas à Sorel en 1664, comme le premier livre qui a inventé l'idée de mettre des cartes imaginaires dans le texte, même si, comme il veut le montrer, ce n'est pas nécessairement la source des inventions françaises qui auraient pu être séparer et rencontrer la même idée à partir des usages de la langue et du terme « carte » dans l'usage commun de la langue. Donc voilà un premier élément de cette généalogie qui est un élément interne à un des textes qui, au XVIIe siècle, réfléchit sur l'histoire de ce genre qui est la carte dans la fiction. Mais doit-on en rester là? Et je pense que la réponse serait non. Et sortant de Sorel, continuer cette généalogie plus en amont. Mais ce sera l'objet de la deuxième heure. Donc, si vous voulez, on peut reprendre à 11h10, puisque nous faisons habituellement une pause. Et je rappelle qu'il n'y a pas de séminaire la semaine prochaine, et que nous reprendrons donc le 21. Il n'y a pas de cours la semaine prochaine, et nous reprendrons donc dans 15 jours le 21. Et pour ceux qui assistent au séminaire de l'après-midi à 16h, il n'y a pas de séminaire aujourd'hui, nous reprendrons aussi le 21. Mais donc pas de cours la semaine prochaine, donc nous reprenons à 11h10.